France Inter.
La langue de l'autre, faut-il la vivre comme une barrière qui nous sépare à jamais ou comme un voile derrière lequel se cache une autre vision de l'homme et de la vie? Mais pourquoi, direz-vous, rechercher une autre vision du monde si l'on est convaincu que la meilleure est celle que nous a imposée la langue apprise dès notre tendre enfance? Henriette Walter est ce soir notre invitée à l'occasion de son gros livre intitulé « Langue d'ici et d'ailleurs ». Et comme chaque soir, et pour fêter le début de l'année, nous allons commencer en musique avec Aurel San, « Jour meilleur ».
Laisse-moi dire deux, trois conneries avant que t'en fasses une. Le problème de la vie, c'est qu'il y en a qu'une. On soignera jamais la dépression comme on soigne un rhume. Mais dis-toi que tu pourras compter sur moi le temps que ça dure. Allergique à la vie, les matins sont obscurs. Comme tout un arrière-coup déjà vu. Les nuits sont noires, tout le monde t'a abandonné, même la lune. Mais la fin du désert se cache peut-être derrière chaque dune. Tout va s'arranger. C'est faux, je sais que tu sais. Des fois je saurais plus trop quoi dire, mais je pourrais toujours écouter. Tout va pas changer, enfin sauf si tu le fais. Quand t'as le désert à traverser, y'a rien à faire sauf d'avancer. Rien à faire sauf d'avancer. On rira quand on le verra sous un jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur. On en rira quand on le verra sous un jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur.
Comme dans toutes les chansons de Paris, tous les meufs sont partis. Comme dans tous les morceaux de rap où tous tes potes t'ont trahi. Des fois t'as besoin de soutien, des fois t'as besoin d'un ami. Des fois t'as besoin d'avoir la haine, des fois t'as besoin d'un ennemi. En vrai, tu peux pas tout contrôler, faut que tu l'acceptes. Être heureux c'est comme le reste, faut d'abord apprendre à l'être. Je sais, tu vas te coucher en disant demain je le fais. Tu te réveilles en disant demain je le fais, mon ami.
Laisse-moi dire deux, trois conneries avant que t'en fasses une. Le problème de la vie c'est qu'il y en a qu'une. On soignera jamais la dépression comme on soigne un rhume. Mais dis-toi que tu pourras compter sur moi le temps que ça dure. Allergique à la vie, les matins sont obscurs. Comme tout un arrière-coup déjà vu. Les nuits sont noires, tout le monde t'a abandonné, même la lune. Mais la fin du désert se cache peut-être derrière chaque dune. Tout va s'arranger. C'est faux, je sais que tu sais. Des fois je saurais plus trop quoi dire, mais je pourrais toujours écouter. Tout va pas changer, enfin sauf si tu le fais. Quand t'as le désert à traverser, y'a rien à faire sauf d'avancer. Rien à faire sauf d'avancer. On rira quand on le verra sous un jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur. On en rira quand on le verra sous un jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur.
Avez-vous vécu, Henriette Walter, depuis que vous êtes au monde, une période un peu étrange comme celle que nous traversons?
Oh, jamais. Écoutez, elle est tellement extraordinaire. C'est tellement bizarre, cette histoire, ces confinements successifs et ces non-confinements. Et tout d'un coup, on a la liberté, on pense qu'on a la liberté et on ne l'a pas. En fait, on est obligé de porter les masques, on est obligé de se protéger. Quand on est fragile un peu, comme moi, par exemple.
On dit immunodéprimé dans le langage courant quand on écoute la télévision,
exactement,
la radio.
Exactement, on est déprimé, mais moi j'ai essayé
français,
de ne pas l'être.
Immunodéprimé, qu'est-ce que ça veut dire immunodéprimé pour une linguiste comme vous?
Immunodéprimé, écoutez, moi en fait, lorsque on travaille un petit peu du chapeau, si j'ose dire, ça va mieux. On peut essayer de se reporter ailleurs et de se dire bon, en fait ça, on ne m'empêche pas de continuer à travailler, de continuer à chercher malgré tout, hein, malgré le confinement, et les livres sont toujours là et on peut toujours réfléchir à quelque chose de nouveau.
Oui, mais la langue elle-même a été percutée de plein fouet par l'épidémie
de la
Covid. Que pensez-vous de cette féminisation?
Alors, la féminisation, moi, il me semble que lorsqu'on dit la Covid, on pense à la maladie. Et que lorsqu'on dit le Covid, on pense au virus. Voilà. Donc, moi,
ça vous choque pas?
Il m'arrive de faire les deux, selon que je pense au virus ou à la maladie. Mais je ne sais pas si c'est la bonne chose, hein.
Et ce mot de confinement?
Alors, le mot de confinement, bah, là, ça me rappelle des choses un petit peu pénibles, celle de la guerre. Que j'ai connu, j'étais petite, mais tout de même, j'ai connu ça. Donc, évidemment, ça rappelle de vilaines choses avec des histoires de bombardements, de craintes, de choses comme ça. Alors, évidemment, on n'en est pas là. Bien sûr, on n'en est pas là. On est obligé de rester chez soi, mais on en profite aussi pour mieux vivre, si on peut, avec notre famille, pour une fois. C'est-à-dire que il n'y a plus de le fait que les enfants s'en vont et on les voit plus, etc. Non, ils sont là. Alors ils sont là plus ou moins, voilà.
Alors vous venez aussi de parler. Oui, eux aussi ils sont
percutés. En fait, ils ont eux aussi leurs soucis, leur façon de travailler. Mais enfin bon, pour nous, ça a permis certaines discussions. Voilà, certaines discussions sur les événements actuels et sur les événements en général, sur la vie en général.
Alors, vous venez d'évoquer, Henriette Walter, la guerre que vous avez connue quand vous étiez petite. Combien de langues parliez-vous
à cette époque-là? À cette époque, c'était l'époque où j'étais encore à l'école italienne. C'est-à-dire que quand j'étais petite, enfin, ma famille est française et italienne, c'est-à-dire que du côté paternel, c'est l'Italie. Et j'ai commencé à lire et à écrire en italien et pas en français. Ce qui m'a beaucoup servi quand je suis passée à l'école française. Car à ce moment-là, mes parents ont craint que je ne sois très très mauvaise à l'écrit. En se disant, mais l'orthographe française, c'est pas du tout comme l'italien. En italien, tout s'écrit, tout s'entend. On entend quand il y a deux consonnes qui se suivent, on les entend. En français, on les entend pas. Et c'est vrai. Mais moi, qui avais commencé avec l'école italienne, je savais qu'il y avait deux consonnes là. Donc, je les écrivais en français. Et ça a fait ma joie, si j'ose dire, parce que j'ai été très bonne en français et très bonne en orthographe. Voilà.
D'où vous vient votre amour de la langue? Est-ce que c'est parce que vous parliez dès la haute enfance de langues? Ce n'est pas seulement pour ça. Mais parce que très vite, vous en avez parlé cinq.
Alors, c'est-à-dire que je ne les parlais pas vraiment, les autres. Les autres, je les entendais, à vrai dire. Je vivais en Tunisie. En Tunisie, où la langue, c'est l'arabe. Mais il y avait non seulement des arabophones, mais il y avait aussi des gens qui parlaient le maltais. Et le maltais, c'est une langue très, très particulière, très intéressante, parce que les gens ne savent pas que le maltais, c'est de l'arabe, mais c'est un arabe très très spécial. Vous savez, quand j'ai fait avec Bassam Baraké le livre qui est repris dans bouquin, nous avons choisi ensemble le programme, disons, ce que nous allions mettre dans cette histoire de l'arabe en Occident. Et c'est moi qui lui ai dit, écoutez, il faut pas oublier de parler de Malte. Et il me dit, mais enfin Malte, cette petite île au milieu de la Méditerranée, ce petit caillou qu'est-ce que vous voulez que ça fasse avec à côté de la Sicile ou de l'Espagne où les Arabes se sont répandus, etc. Je dis mais attendez, du point de vue linguistique, c'est extrêmement important. Il me dit mais pourquoi? Mais il ne savait pas. Hein, il ne savait pas. Bassam Barakeh est professeur à l'université de Beyrouth. Donc, il parle un arabe de l'Est, du Machrek, et non pas du Maghreb. Donc, bon, c'est pas pour ça qu'il connaît pas le maltais, hein. Mais enfin, moi, je connais parce que, enfin, je savais que ça existait, parce qu'il y avait beaucoup de maltais en Tunisie. Et ce que je lui ai dit, mais attendez, ce qui est intéressant, c'est que le maltais est une, et c'est de l'arabe, bien sûr, mais il s'écrit avec l'alphabet latin, d'une part. Donc c'est quelque chose de particulier parmi toutes les langues sémitiques. Et deuxièmement, sa phonologie, sa prononciation s'est détachée complètement de la prononciation de l'ensemble des arabophones. Pourquoi ? Parce que les Maltais sont catholiques, ils ne sont pas musulmans. Ce qui signifie que le Coran, ils connaissent pas. Et donc, le fait que, en fait, pour tous les arabophones, c'est le Coran qui les réunit, puisqu'on a, c'est quelque chose qui est commun à tous. Et qu'il y a une prononciation particulière qui a été désignée, qui a été fabriquée à une certaine époque.
Donc être linguiste, Henriette Walter, si je vous entends bien, ça veut dire être non seulement une spécialiste de la langue, dans sa structure grammaticale, dans son tissu, dans sa manière d'être appréhendée, mais aussi être psychologue, être historienne des religions, voilà, connaître l'évolution des comportements.
Exactement, c'est ça. On est amené à ça, si vous voulez, quand on travaille sur les langues, on est amené à tout voir, à voir tout un ensemble. On ne peut pas détacher la langue de la culture. Donc c'est pas possible. Donc ça marche ensemble.
Ni du mot évolution, langue et voilà, évolution c'est la même chose.
Voilà, c'est-à-dire qu'une langue qui se parle, c'est une langue qui bouge. Si elle ne bouge pas, elle meurt. Donc c'est simple. Donc on a pris l'habitude. Enfin moi en tant que linguiste, moi qui ai travaillé beaucoup sur le terrain, sur les langues régionales de France ou sur le toscan, puisque j'ai fait aussi ma première thèse. À l'époque on faisait deux thèses. Ma première thèse était sur le toscan, avec une grande un prolongement vers l'étrusque. Alors là j'ai été obligée quand j'ai travaillé sur le toscan. Cette prononciation particulière de l'italien où on entend des consonnes qu'on n'entend pas en italien qui s'appellent la gorgia toscana, c'est-à-dire qu'on dit la gorge comme si c'était la gorge toscane, c'est-à-dire que on entend des je sais pas si ça s'entend, oui, des au lieu de que. C'est-à-dire que la consonne que ne se prononçait pas comme une occlusive, comme une consonne qui se ferme et qui s'ouvre, avec la gorge qui s'ouvre, mais avec un souffle au niveau de la glotte. C'est-à-dire qu'au lieu de dire, la casa, pour dire la maison, on dit la hasa. Donc les gens ont entendu, ils se sont dit oui, c'est ça la gorgia toscana, c'est ça, c'est ça. Et vous savez que les Italiens qui ne sont pas toscans, se moque des Toscans en disant parlano con l'uovo in bocca, c'est-à-dire ils parlent avec comme s'ils avaient un œuf dans la bouche. Donc c'est voilà, et ils disent la hola hanucha, c'est-à-dire le Coca-Cola avec
la paille.
La paille, exactement, avec la paille.
Et dans quelle langue rêvez-vous, Henriette Walter?
Dans
quelle langue rêvez-vous?
Ah, alors je ne sais pas. Alors là je ne sais pas. Il est possible que je rêve quelquefois en italien parce que c'était ma langue d'enfance. Mais il faut savoir aussi que je ne parlais l'italien à l'école et aussi avec mon grand-père paternel. Donc, avec mon grand-père paternel, tout le monde parlait italien, voilà. Tandis qu'à la maison, on parlait français.
Alors, ce que vous ne dites pas, Henriette Walter, linguiste devant l'éternel, c'est que si vous avez eu une capacité à comprendre si vite plusieurs langues dans leur structure et leur fonctionnement, c'est parce que, paradoxalement, vous ne voyiez que très mal et que vous portiez d'énormes lunettes et que tout le monde se moquait de vous parce que vous aviez d'énormes lunettes.
Exactement. Je ne voyais rien du tout. J'étais extrêmement myope. Et mais j'étais intéressante pour les ophtalmos. Hein. Ils se sont beaucoup intéressés à moi. Évidemment, je ne suis plus myope puisque je me suis fait opérer de la cataracte et que maintenant, je vois bien de loin. Encore que... Au moment du premier confinement, j'ai eu un ennui aux yeux. C'est-à-dire que la première chose qui a été atteinte, c'est mes yeux, et pas du tout par le virus Covid-19, mais par un autre virus, le virus de l'herpès sur l'œil droit. Ce qui fait que j'ai, pendant plusieurs jours, je ne voyais plus de l'œil droit. J'ai été soignée immédiatement aux urgences de Rothschild. Et on m'a soigné. Malheureusement, il est resté des séquelles. C'est-à-dire que maintenant, je n'arrive plus à lire avec mon œil droit. Je ne lis qu'avec l'œil gauche, qui va très bien. Ça va. Je peux continuer à lire.
Alors, vous avez sans doute entendu parler du nouveau livre de Michel Houellebecq, qui fait la une de la rentrée littéraire ces jours-ci. Ce livre s'intitule « Anéantir ». Il possède une grande capacité à transformer notre langue française. Il possède de nombreux registres pour dire des états d'âme très différents. Il est passionnant pour une linguiste et aussi pour ses nombreux lectrices et lecteurs. Je vous propose d'écouter la voix de Michel Houellebecq à propos de la littérature et de ce qu'apporte l'écriture. C'est une archivina du 7 janvier 2015.
C'est la littérature, hein, ce qui... Bon, je prends au sérieux la littérature, ceci dit, mais disons qu'on... Si on veut modifier, inviter les gens à penser quelque chose, on n'écrit pas un roman. On écrit un essai, je serais capable de le faire éventuellement, c'est même plutôt plus facile. Et on essaye d'être bref, incisif, on n'introduit pas de personnage parce que ça complique inutilement. Donc on dit, du contrat social, le manifeste du Parti communiste, des textes forts, bon. Elle est le théâtre de passion, mais ben, disons qu'elle alimente la conversation, ouais. Bon, ce qui est, après tout, c'est un bon sujet de conversation.
Si elle n'a pas d'impact, la littérature, elle ne sert à rien?
Ah ben si, elle fournit une autre vie, comme l'exprime brillamment Huysmans, parce qu'il est très content, il a une pile de bouquins, il se met au lit... Il passe une très bonne soirée avec ses livres. Donc ça fournit une autre vie accessible, qui entre en résonance avec la nôtre, ou pas, qui est plus ou moins imaginaire, plus ou moins réaliste, mais ça fournit d'autres vies. Et d'ailleurs, quand on écrit déjà, c'est ça qui est bien dans le fait d'écrire aussi. Vous avez votre vie, qu'est-ce qu'elle est, mais vous avez une autre vie, vos petits personnages que vous faites vivre. Enfin, moi j'adore, quoi, en fait.
On vient d'entendre la voix de Michel Houellebecq, c'était au micro d'Augustin Trapenard en 2015. Aujourd'hui, Houellebecq sort son énorme livre qui fait plus de 700 pages et qui est une sorte de traité des temps post-modernes, post-Covid, même s'il n'est pas question du Covid, il est question d'une sorte de mélancolie de l'âme à l'intérieur de ce texte. Houellebecq vient de dire que pour pouvoir mieux penser, il vaut mieux lire des essais que la littérature. Et pour pouvoir mieux s'exprimer, pour vous, Henriette Walter, vaut-il mieux lire de la littérature ou lire des essais ?
Pour moi, c'est plutôt des essais.
Donc vous êtes d'accord avec Houellebecq ?
Oui, tout à fait. Là, c'est vrai. Avec les essais, on prend toujours quelque chose. Avec la littérature, les romans, par exemple, quelquefois, on est emmené je ne sais où et on n'a rien appris. Or, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'apprendre plutôt que de jouir de la littérature. Vous voyez, je ne sais pas si je m'exprime bien. Voilà.
La littérature, c'est pour le plaisir et les essais, c'est pour s'éduquer.
Oui, si vous voulez. Oui, mais c'est aussi le grand plaisir, le très très grand plaisir. C'est-à-dire que.
Mais inutile alors un peu pour vous, comme vient de dire Houellebecq.
Si vous voulez, c'est-à-dire que quand je suis arrivée à Paris, c'était la soif d'apprendre. C'était plus la soif d'apprendre, plutôt que la soif de profiter des expositions ou des choses comme ça. J'y allais, je le faisais, mais en fait, c'était une espèce de soif, vraiment.
Voilà. Et aujourd'hui, apprenez-vous toujours à l'intérieur des essais ou relisez-vous les classiques
Les deux, mon capitaine. C'est vrai. Les deux. Il m'est arrivé récemment de relire, mais en fait, je les avais jamais lus. Les dialogues de Platon, par exemple. Bon, ça, c'est vraiment du classique, si j'ose dire. Je ne dis pas que je comprenne tout, non, même dans la traduction française, même avec les notes. Mais ça m'a fait du bien de le faire. Mais bien entendu, de temps en temps aussi, je profite. J'aime bien les romans. C'est pas. Mais quand même plutôt les essais.
N'avez-vous pas l'impression, Henriette Walter, que c'est dans le domaine du romanesque que s'inventent beaucoup d'expressions langagières et peut-être des mots nouveaux, alors que dans les essais, pour être au plus proche de sa pensée, il faut essayer d'utiliser des termes, entre guillemets, aguerris?
Oui, peut-être que vous avez raison. Sans doute qu'on ne se permet peut-être pas, dans les essais, de trop inventer. Parce que on est à la recherche de la vérité avec un grand V, qu'on trouve ou qu'on ne trouve pas. Mais il y a peut-être ça, cette espèce de pudeur, de pas aller trop loin.
Alors peut-être. Vous êtes une inventrice de concepts linguistiques. Je ne sais pas d'ailleurs si vous acceptez ce mot d'inventrice.
Pourquoi pas?
Ah, vous n'êtes pas contre la féminisation?
Si, pourquoi pas?
Bah, tout à l'heure, on aura une discussion avec Vendine Delorme qui est à Lyon sur justement, les résistances que certains académiciens, et pas seulement les académiciens, opposent à cette féminisation de la langue. Mais j'ai l'impression que une langue, par définition, elle évolue à toute vitesse, et s'il n'y a pas de résistance, ça veut dire qu'elle ne change pas assez vite, non?
Oui, et puis si elle change, il faut que l'interlocuteur vous comprenne. S'il ne vous comprend pas, on est fichu, si j'ose dire. Donc, enfin, ce qu'on peut voir lorsque on travaille sur l'histoire des langues, c'est que lorsqu'il y a eu des inventions un peu trop rapides, un peu trop loin des concepts habituels, ça ne marche pas, ça disparaît. Donc,
une langue, c'est fait pour communiquer et être compris.
Exactement. Et si on comprend pas, ben ça s'éteint tout doucement.
Mais pour autant, y a-t-il une origine des langues ? Généralement, à l'école, on nous apprend, quand on est tout petit, que l'origine des langues vient de ce qu'on appelle les langues mortes. Drôle d'expression.
D'autant plus qu'elles ne sont pas complètement mortes. Celles qu'on dit mortes, comme le latin ou le grec, je pense que vous pensez à ça.
Oui.
Bien sûr. Donc, le latin, aussi bien que le grec, se trouve encore... Nous parlons encore latin ou un peu grec dans notre langue française et dans les langues de l'Europe actuelle. Quand on pense à tout ce latin qui est celui qui se voit et celui qui ne se voit pas. Par exemple, celui qui se voit, c'est par exemple idem, des choses comme ça, vous voyez, ou cursus, ça sonne latin. Mais il y en a tellement qui sont des mots latins et dont on ne pense pas qu'ils sont latins.
Voilà. Vous êtes une archéologue des langues, en fait.
Oui, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Quand on pense au grec, par exemple, je viens de retravailler pendant le premier confinement. Je viens de retravailler sur le vocabulaire de l'anatomie et de la physiologie, c'est-à-dire de la médecine, disons. Et ce qui apparaît quand on fait l'ensemble de ce vocabulaire, on voit que tout ce qui est anatomie, c'est du latin, avec très très peu d'exceptions, tandis que tout ce qui est physiologie ou médecine, c'est du grec. C'est extraordinaire. Et alors j'ai cherché les exceptions, il y en a très 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 peu. Donc voilà, alors on se dit, mais pourquoi a-t-on gardé du latin et d'un côté, du grec de l'autre côté, pourquoi ce choix? Eh bien, le choix est dû, disons, à l'histoire. C'est que le grec est arrivé un petit peu plus tard dans nos connaissances. Nous avons commencé à emprunter au grec vers le 15e siècle et pas avant. Tandis que pour le latin nous est arrivé par la langue orale. Et
donc, d'où l'expression latin de cuisine.
Oui, voilà, on peut dire ça. Bien, bien sûr, alors le latin de cuisine étant très très spécial et très amusant à travailler. Mais ce que je voulais ajouter, c'est que ce latin que nous avons appris par la bouche des Romains, nous l'avons transformé dans d'une certaine manière, et tout ce latin, le pied, la main, le nez, etc., ce sont des mots qui sonnent français, qui ne sonnent pas latin, c'est-à-dire qu'ils ont évolué. Ils ont évolué parce qu'ils sont venus par la langue orale, tandis que les mots grecs, ils nous sont arrivés plus tard par la langue écrite, et donc ils ne ressemblent pas à des mots grecs. Ils ne ressemblent pas à des mots français. Ils n'ont pas été transformés à la française, vous voyez. Donc c'est intéressant de faire ce parallèle, cette étude parallèle entre le latin et le grec, qui sont deux langues dites mortes, mais qui continuent à vivre un peu en soubassement. Voilà.
Ben, je vous propose d'écouter la vie de Jacqueline de Romilly, la regrettée Jacqueline de Romilly, qui aimait tellement le grec et le latin, et qui savait si bien le transmettre. Nous allons l'écouter, c'est une archive INA du 9 novembre 2004.
Je peux vous raconter qu'une élève, une bachelière, si mes souvenirs sont exacts, m'a un jour demandé « Madame, quand vous étiez jeune, ces langues mortes, elles étaient déjà mortes ou on les parlait encore ?» Vous voyez que le sens du temps passé n'était pas en ma faveur. Mais je suis une des rares personnes à n'être pas du tout offusquée par l'idée de langue morte. Parce que je crois qu'une des utilités du latin et du grec, c'est que justement, comme on ne les parle plus, la littérature est vivante et la langue vit à travers la nôtre d'une certaine façon, mais comme on ne les parle plus, on ne peut pas deviner, on ne peut pas se fier à une espèce d'instinct d'à peu près. Il faut faire attention. Il faut faire attention aux constructions, à la valeur des mots. Et cette attention, à mon avis, est bénéfique.
Alors, cette histoire d'attention, qu'en pensez-vous, Henriette Walter ?
Alors, oui, bien sûr, il faut faire attention. C'est-à-dire que
Faire attention à bien parler, il faut faire attention à bien se faire comprendre.
Exactement.
Si je vous ai bien compris, à l'intérieur des 700 pages que vous publiez ces jours-ci.
Tout à fait ça. C'est-à-dire qu'il faut essayer de faire... je sais que moi, j'ai beaucoup de mal. J'écris très lentement. C'est-à-dire que je réécris très 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 souvent, parce que je réécris jusqu'au moment où j'ai l'impression que j'ai bien dit ce que je voulais dire. Donc c'est très mauvais, enfin c'est très mauvais, c'est très mauvais pour la publication, puisque ça retarde un peu la publication.
Ah oui, mais c'est intéressant, parce que vous êtes en train de nous dire que quand vous parlez, vous ne comprenez pas forcément immédiatement ce que vous voulez dire ou ce que vous pensez, et ce n'est que par l'écriture que vous décryptez votre propre cheminement intellectuel.
Voilà, tout doucement, ça va très doucement. Je suis assez lente. Je n'y arrive pas du premier coup. Alors que je sais qu'il y a des tas de gens qui écrivent immédiatement ce qu'ils pensent et ils pensent que c'est bien, que ça va. Tandis que moi, je pense jamais que ça va. Jusqu'au moment où finalement je dis oui, d'accord, c'est à peu près ce que j'ai voulu dire. Voilà. Mais bon, voilà. Alors je suis jamais très contente de ce que j'ai écrit.
Mais ça vous honore.
Voilà.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical d'Henriette Walter, l'impromptu numéro 3 de Schubert.
la langue, et ça a toujours été mon idée, est à la fois, bon, bien sûr, la meilleure et la pire des choses, ça a été dit il y a longtemps, et en particulier, c'est un instrument à faire apparaître l'absence, à faire exister le néant et à néantiser ce qui existe, parce que un des éléments fondamentaux de la langue, c'est la négation. Et la négation permet de parler de ce qui n'est pas là ou de ce qu'on veut voir disparaître. Donc, en fait, c'est un système qui est d'une perversité épouvantable parce que il nous projette à la fois dans les autres mondes et dans la suppression du nôtre.
C'est aussi ce qui nous a permis de sortir de l'animalité.
Est-ce que c'était un avantage? Les animaux sont évidemment incapables de se dire, mais ils sont incapables de se nier, alors que nous le sommes.
Nous venons d'entendre successivement l'impromptu numéro 3 de Schubert, interprété magnifiquement par Radu Lupu, et puis vous avez reconnu la voix d'Alain Rey, Henriette Walter, le regretté Alain Rey, à qui un hommage a été donné par un magnifique livre publié il y a quelques mois seulement. Il vient de dire quelque chose d'intéressant sur le plan philosophique de la langue. La langue, ça néantise, dit-il. Ben oui, parce que ça permet de dire ce qui n'est plus. Qu'est-ce que vous en pensez de cette définition un peu philosophico-politique?
C'est un petit peu philosophique parce que, en fait, la langue peut dire ce qui n'est pas et peut dire ce qui est. Et elle peut même inventer ce qui n'est pas encore. Qui va être
comme par exemple dans la poésie,
qui laisse beaucoup de flou autour de ce qui est dit et donc qui permet aux gens d'imaginer ce qu'ils veulent, c'est-à-dire pas forcément ce que l'auteur a voulu dire, c'est-à-dire qu'il en dit un tout petit peu plus. Je me souviens que il y avait quelque chose comme ça avec Paul Valéry. Attendez, Paul Valéry et Albert Cohen, je crois, et qui est allé suivre un cours au Collège de France sur un de ses poèmes, et qui a dit « Mais c'est formidable, j'ai appris des tas de choses que je ne voulais pas mettre, qui ont été inventées, disons, qui ont été suggérées par ce qu'il avait écrit. »
Y a-t-il des langues, pour vous, Henriette Walter, qui soient plus susceptibles ou plus souples d'entretenir des doubles, des triples, des quadruples sens et qui nous permettent de nous évader vers l'imaginaire?
Je ne sais pas trop. Évidemment, il faut en connaître beaucoup, hein. Je n'en connais pas assez.
Vous en parlez de beaucoup à l'intérieur de ce bouquin,
oui,
justement.
Oui, c'est vrai.
De l'italien, de l'anglais, de l'arabe.
Oui. Du portugais, du basque. Oui. Je décortique un petit peu. Je connais un petit peu l'histoire. Mais savoir comment ça peut exprimer le monde, ça c'est un peu plus difficile. Dès qu'on travaille sur la sémantique, ça va, c'est moins sûr, hein, puisque chacun d'entre nous met ce qu'il veut derrière les mots. Même si on parle la même langue, on met pas exactement la même chose derrière les mots. D'où la nécessité de faire des nuances, de dire oui, mais attention, ça c'est comme ça, et puis ça, quand même, c'est seulement, on va l'employer seulement entre nous ou seulement avec des gens très très savants. Hein, le choix du vocabulaire technique ou du vocabulaire de tous les jours. Par exemple, personnellement, quand je veux expliquer une évolution phonologique, une évolution de la prononciation, je suis tentée d'employer des termes de technique. Allitération, c'est déjà de la littérature. Évolution phonétique, mais c'est très très compliqué. Il faut expliquer d'abord ce qu'est le canal vocal, comment l'air passe par plusieurs petits tuyaux pour finalement arriver au bilabial, peu et be. Vous voyez, enfin, c'est compliqué. Donc, on est obligé d'employer du terme technique, mais on essaye de ne pas le faire.
Qui appartient la langue? On va en discuter tout de suite avec Vindy Delorme qui nous attend au téléphone. Mais une question, vous vous sentez vieille, Henriette Walter, ou pas?
Alors, ça dépend où.
Aujourd'hui, corps, là, en ce moment,
dans mon corps, pas du tout. Je me sens vieille, bien sûr, mais dans ma tête, je suis pas vieille. Non, non. J'ai l'impression que je suis toujours prête à apprendre. Et ben, donc, là, peut-être que c'est un signe de jeunesse, je sais pas.
C'est sûrement un signe de jeunesse parce que j'ai appris sous votre plume, Henriette Walter, dans ce gros volume, que les vieux et les vieilles, bien évidemment, les vieilles et les vieux, finalement, inventaient beaucoup plus de mots que les jeunes, alors qu'on nous répète tout le temps le contraire.
Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, mais pourquoi? Mais parce qu'on a beaucoup de souvenirs, bien entendu. Et donc, avec les souvenirs, on a un contingent de vocabulaire et d'idées qui sont cachées et qui ressortent de temps en temps quand on peut.
Alors, autre sujet brûlant en ce moment dans l'histoire de la langue. Toutes les façons, la langue est une passion française et les Français sont prêts à s'engueuler entre vax, pro-vax, anti-vax, mais aussi à propos de l'orthographe et de la langue française. Évidemment, un des sujets les plus brûlants, c'est l'écriture inclusive.
Aïe.
Alors, aïe. Ben justement, avant d'entendre l'avis de Wendy Delorme, je voulais vous dire que c'était un combat très ancien, que vous restituez d'ailleurs à l'intérieur de ces 700 pages, Henriette Walter, et un combat littéraire et intellectuel très ancien. Et je vous propose d'écouter la voix de Monique Wittig, qui était à la fois une écrivaine et une philosophe, qui réfléchissait en 1973, c'était au micro de Viviane Forrester, à ce que voulait dire être une femme écrivain, écrivaine avec une langue patriarcale. On écoute Monique Wittig.
Quand on se met devant une feuille pour écrire, on a vraiment tout le poids du monde sur les épaules, vraiment, c'est oui. Le cas de le dire, parce qu'on emploie d'abord un matériau qui est le langage, c'est pas des couleurs, c'est pas de la photographie, c'est vraiment quelque chose qui est complètement connoté, c'est-à-dire un langage tout constitué, avec ses phrases, avec sa structure, avec sa grammaire, et que c'est un instrument qui n'est pas le nôtre, qui ne nous appartient pas. D'ailleurs, elle dit à un moment donné, il n'arrive jamais à une femme, quand elle marche dans la rue ou quand elle fait ceci ou cela, de ne pas se dissocier complètement, de ne pas se sentir étrangère à son monde. Ça arrive tout le temps, cette coupure. Oui. Je trouve que l'expérience d'une femme, et en particulier d'une femme écrivain, est complètement schizophrène. Il faut toujours faire la coupure entre les deux, d'une part, employer un langage qui n'est pas le nôtre, essayer de s'insérer dans une culture qui n'est absolument pas la nôtre, que nous n'avons même pas choisie, qui est une culture patriarcale par essence, et je vois pas comment on peut s'abstraire de ça, enfin. Je trouve qu'il y a une coupure complète entre le fait de cette culture qui pèse sur nous si fort, avec toutes ces contraintes, toutes ces fascinations pour une certaine érudition, pour une certaine pratique du langage, etc. Et la lutte qu'on mène sur un autre plan, enfin, qui est de casser tout ça, d'essayer de faire passer dans ce langage et avec ce langage autre chose, enfin. Mais quand on lit un peu certains linguistes actuellement qui donnent l'origine de base de tout notre vocabulaire, il y a d'abord ça, l'aspect du vocabulaire, qui est un vocabulaire basé sur l'échange, sur la prise de possession des esclaves, des femmes. Mmh. On le voit très bien à travers les institutions, comment le vocabulaire est né, et qu'il est né, que notre vocabulaire indo-européen est un vocabulaire patriarcal. D'abord, il y a ça. Mmh. Ensuite, il y a une chose plus mystérieuse qui est la structure de la phrase, du langage parlé, courant.
Nous venons d'entendre Monique Wittig, c'était au micro de Viviane Forrester et c'était en 1973. Bonsoir Wendy Delorme et merci d'être avec nous ce soir pour parler avec Henriette Walter. Vous aviez publié un livre magnifique qui s'intitule « Viendra le temps du feu » aux éditions Cambourakis, il n'y a pas si longtemps, où vous posiez sur la table intellectuelle, si j'ose dire, de l'évolution de la langue, la manière, quand on est une femme, nous sommes trois femmes, d'exprimer notre rapport au monde. Et êtes-vous d'accord avec ce que vous avez entendu des propos de Monique Wittig il y a plus de 50 ans maintenant?
Merci pour cette occasion de discuter avec vous. Et j'étais très touchée que vous passiez cet extrait de Monique Wittig parce que c'est à partir de ses réflexions sur la langue que le livre dont vous parlez a été... dont le livre dont vous parlez s'est inspiré, notamment de ce qu'elle a fait dans Les Guerrières en mettant au féminin pluriel le sujet de la narration. Et ça, dès son premier roman, elle travaille sur le sujet de la narration et sur la place du féminin dans la langue en mettant son premier roman, Le Pokonax, au neutre. C'est le « on » qui parle. partant de là, ça décentre et on se rend compte qu'effectivement, pour exister dans la langue, on fait toujours ce travail de dissociation, de s'identifier à un sujet qui n'est pas nous.
Et vous, alors, vous sentez-vous être une petite fille de Monique Wittig? Parce que quand on lit votre livre, on sent bien deux choses en même temps. À la fois l'invention de personnages féminins magnifiques qui brûlent le feu, justement, qui sont des espèces de guérilleras de la langue. Et en même temps, une inventivité de votre propre langue, parce que vous vous autorisez à transgresser les règles grammaticales du français le plus classique.
Alors oui et non, parce qu'en fait, le travail, en fait, une question s'est posée avec l'éditrice de la collection Sorcière chez Cambourakis, qui est, est-ce qu'on utilise l'écriture inclusive dans ce roman ? Dans mon travail de la langue sur ce roman, je lui dis en fait, je parle d'une société qui est fictive, mais qui reprend de nombreux traits d'une société patriarcale et carcérale qui prive de liberté une partie de la population. Sur la base notamment du sexe, mais aussi de la classe sociale, des origines perçues, etc. Partant de là, donc, je ne vais pas utiliser l'écriture inclusive parce que ce serait anachronique vis-à-vis d'une société qui est, où la langue est un enjeu de domination des êtres. Voilà. Et puis au sein de cette société...
Vous ne voyez pas, mais je vois Henriette qui hausse les sourcils. Mais elle parlera tout à l'heure, on vous écoute.
Partant de là, dans le roman, on a une communauté de résistantes et de résistants qui choisissent le féminin pluriel pour s'autodésigner. Et ce n'est pas une communauté composée essentiellement de personnes nées biologiquement femmes et assignées femmes à la naissance. Ce sont des personnes qui ont décidé d'utiliser le féminin pluriel comme acte de résistance dans la langue. Le roman, vous dites qu'il prend des libertés avec la structure canonique, l'orthographe, etc. En fait, il est sur une rythmique d'alexandrin. La plupart de mes phrases ont 6 ou 12 pieds, donc je reprends quand même un canon de la littérature française en travaillant sur cette rythmique. Et c'est cette rythmique-là, en fait, c'est assez paradoxal, parce que c'est en suivant cette rythmique-là sur 400 000 signes que je me retrouve à construire des phrases différemment de ce que j'aurais fait spontanément en suivant les règles grammaticales, autorisées, quoi.
Donc ça veut dire qu'il faut être une orfèvre de la langue et une grande grammairienne pour pouvoir s'autoriser à faire de la création littéraire, comme vous le faites, Wendy Delorme.
Non, pas forcément, et puis je suis pas grammairienne ni linguiste, mais en fait je crois que de la contrainte naît la création. Moi je me donne une contrainte au début du livre, au début ça vient spontanément, le premier personnage vient avec une rythmique en hexasyllabes. Et puis je garde le principe. Et quand on se donne une contrainte, en fait, on arrive à créer des nouvelles choses. C'est pareil avec le slam, c'est pareil avec toutes les écritures qui travaillent avec la rythmique, en fait.
Mais est-ce que la langue française doit-elle pratiquer, et il y a beaucoup de livres qui sortent ces jours-ci, en cette rentrée littéraire 2022, l'écriture inclusive quand les auteurs, eux, le décident ?
Alors, de mon point de vue, il n'y a pas de devoir. Il y a, en fait, la langue, comme vous l'avez dit tout à l'heure, elle évolue. Elle évolue à travers les âges. Il y a des, c'est la question de l'hégémonie culturelle, en fait. Il y a des groupes sociaux qui vont, avoir plus de pouvoir à un moment donné, qui vont instaurer une rectitude, une orthographe. Ortho, c'est être droit, être rectiligne, suivre la règle. Et ces règles, elles évoluent au cours du temps. La langue française n'a pas toujours été une langue où le masculin l'emporte dans les accords de genre. Ça n'a pas toujours été le cas, ça s'est décidé à un moment donné. Donc la langue peut évoluer. Et la langue peut s'adapter à différents contextes. Et je ne pense pas qu'il y ait besoin d'être un orfèvre de la langue ou une orfèvre de la langue pour pratiquer ce qu'on appelle l'écriture inclusive, parce qu'il y a plein de manières de le pratiquer. Et il y a un ouvrage qui en parle très bien d'ailleurs, c'est un livre de Noémie Grunenwald, qui est traductrice depuis l'anglais, qui a traduit beaucoup d'autrices et d'auteurs féministes, et qui explique dans son ouvrage qui s'appelle « Sur les bouts de la langue, traduire en féministe », qu'il y a des tas de façons en fait de se saisir de la langue pour parler les sujets qui ne sont pas des sujets dominants. Voilà.
Mais vous dites écrivaine, Wendy ?
Écrivaine, écrivante. J'aime bien le terme d'écrivante parce que ça marque le travail. L'écriture est un travail. Vous citiez Wittig. Wittig, elle parlait de la matérialité du langage. Elle parlait du travail de la langue, du travail de l'écrivain, parce que c'est vraiment ça, c'est des nuits blanches, des années passées sur le texte, c'est chercher le bon rythme, c'est chercher la sonorité. Et j'aime bien ce terme d'écrivante, parce qu'il souligne ça.
Alors je crois que Henriette Walter, qui vous sourit aux anges maintenant, qui n'a plus l'air du tout interrogative, peut-être acceptez-vous ce terme aussi d'écrivante, Henriette Walter. Et alors Wendy vient de dire que la langue, elle bougeait sans arrêt. et que la langue était innervée par des tas de choses qui lui étaient arrivées dans le passé, qui lui arrivent évidemment dans le présent, au moment même où nous nous exprimons. Et à l'intérieur de ce fantastique ouvrage que vous publiez ces jours-ci sous le titre « Langue d'ici et d'ailleurs », on apprend le décentrement des langues grâce à vous, Henriette. C'est-à-dire que on apprend que le français est complètement innervé par la langue arabe. On apprend que le combat soi-disant défaitiste du français par rapport à l'anglais n'est pas du tout un combat perdu parce que la langue anglaise est bourrée aussi de français à l'intérieur de ses structures les plus élémentaires et plus que l'inverse, etc. Oui. Est-ce que ce combat pour la féminisation ou pour la possibilité, quand on est une femme, de dire son rapport au monde sans passer par les règles grammaticales d'usage, vous paraît un combat essentiel ?
Je ne pense pas, franchement. Personnellement, moi, ça m'est égal. Qu'on dise de moi que je suis écrivain ou écrivaine, ça m'est égal. Bon. En ce qui concerne l'écriture inclusive, je trouve que ça n'est pas bon. Ça n'est pas bon pour les femmes. C'est-à-dire
ah
que
bon,
c'est contre-productif. Parce que ça complique la lecture.
Vous êtes comme les académiciens, alors?
Si vous voulez, ça m'est égal. C'est, pourquoi pas? Je veux dire par là que ça complique la langue, ça complique l'écriture. Déjà, on a des difficultés à enseigner l'orthographe à nos enfants. Si en plus, on leur ajoute des points quelque part. Moi, je ne sais pas, je pourrais essayer d'écrire avec l'écriture inclusive, mais je pense que je n'y arriverai pas. Donc, je pense que ça dessert, ça ne sert pas les femmes, parce que les gens vont s'énerver à ne pas réussir à lire cette écriture inclusive. Voilà.
Alors moi, je vais vous dire, je me suis pas du tout énervée en lisant votre bouquin qui paraît dans la collection Bouquins. Je me suis beaucoup amusée et surtout grâce à vous, car à l'intérieur du cheminement des langues, vous faites des marelles comme dans l'enfance, dans les cours de récré. Vos marelles s'intitulent récréation. Et donc, on va terminer pour les auditrices et les auditeurs par une de vos récréations. Homonymie chez les navigateurs et les imprimeurs. Il s'agit d'un nom féminin qui, s'il est d'origine arabe, désigne un paquet de 500 feuilles de papier et s'il est d'origine latine, se rapporte à une pièce de bois servant à faire avancer une embarcation. Que les auditrices et les auditeurs qui savent répondre à la question d'Henriette Walter nous le fassent savoir. Merci infiniment, Henriette Walter.
Merci à vous.
pas, laissez-moi vivre.
C'est avec ces mots-là de Delgrèce que nous allons nous quitter ce soir. Merci Vandy Delorme. Je rappelle que votre livre s'intitule « Viendra le temps du feu ». Il est publié aux éditions Cambourakis. Et merci encore à vous, Henriette Walter. Je rappelle que « Langue d'ici et d'ailleurs » vient d'être publié aux éditions Robert Laffont, bouquin. Merci à Thomas Langlin qui est à la régie technique ce soir. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Et merci à Céline Villegas, Élodie Royer, Marie Clément, ainsi qu'à Lilian Allôme, qui, comme chaque soir, et pour le premier soir de l'année 22, a réalisé cette émission. Après le prochain journal, vous avez bien sûr rendez-vous avec le numéro 1 de Very Good Trip 22 de l'ami Mishka.